Pour l'instant, je propose qu'on patiente et on avise.
Vous voulez qu'on patiente ?
Nous ne sommes pas la solution. Nous sommes le problème. Et nous en sommes encore à pérorer sur notre exemplarité.
Expliquez-nous comment.
C'est un monde où l'on tente de faire croire qu'une automobile de plus de 2 tonnes qui emmène 500 kilos de batterie est un objet écologique.
Si au lieu de détruire les forêts de Bornéo, d'où nous revenons, de Java, de Sumatra et de l'Afrique centrale, on protégeait ces forêts, il n'y aurait pas de danger.
On est en train de paniquer les populations, là.
Les mesures sautent, on est à plus 4 degrés, on parle d'apocalypse, on parle de... Non mais vraiment, c'est pas radical.
Tout de suite, nous n'avons qu'une terre sur Divergence FM.
Bonjour, bonjour à tous, heureuse de vous retrouver. Alors cette semaine, eh bien, c'est la semaine des news. On va faire un peu le point sur la suite de tous ces événements politiques qui se sont déroulés. Alors d'abord, cette semaine, le CIRAD a lancé, a lancé son anniversaire, la fête de ses 40 ans. Nous reviendrons ensuite sur les européennes et leurs résultats. Puis sur la dissolution de l'Assemblée nationale et ses conséquences sur les affaires en cours. Enfin, la semaine dernière, nous vous avions parlé de la vague de Tehaupo et nous n'avions pas eu le temps d'évoquer les problèmes du corail sous-jacent à cette zone de Papeete. Nous y reviendrons cette semaine. Les algues vertes, qui restent un fléau en Bretagne, pourrait devenir un nouveau matériau. Est-ce effectivement une piste à suivre ? Enfin, on verra que les Français ont une très mauvaise information concernant les pesticides et se font beaucoup, beaucoup d'illusions. Enfin, le quartier de Cambacérès à Montpellier, qui est aujourd'hui soumis à la géothermie. Et enfin, quelques brèves. Alors d'abord, revenons sur l'événement de la semaine. Le CIRAD a fêté ses 40 ans. L'anniversaire a débuté hier à Montpellier, dans l'un des plus vieux jardins botaniques de France. Nous l'appelons souvent le jardin des plantes. Il faisait déjà beau et chaud quand on a déambulé pour admirer une expo photo, le vivant grand format. Une sorte de tour du monde en images de la diversité des recherches du CIRAD, donnant à voir un vivant mosaïque. Depuis les séquences de génome jusqu'au marché de mangue du Sénégal, en passant par la diversité des semences et des variétés de riz, les échantillons de sol ou les chasseurs perdus dans la jungle gabonaise. Mais pas de panique, si vous avez raté l'inauguration, les photos sont installées sous les arbres pour plus d'un mois, à vous d'aller les voir. Alors maintenant, on va faire un peu d'histoire. Tout commence en 1870 avec une école d'agriculture sur le site qui deviendra celui d'Agropolis. Il devient célèbre grâce à la mise au point de moyens de lutte contre le phylloxéra, cet insecte qui est venu des États-Unis et qui décime les vignobles français. L'école se nomme aujourd'hui l'Institut Agro. Mais dans les années 60, s'y implantent le lycée agricole Frédéric Basile et l'Institut agronomique méditerranéen de Montpellier. Ainsi, né, aux côtés des universités, un pôle d'enseignement agricole sur le campus de La Valette, puis ce qui deviendra l'un des plus importants laboratoires de recherche en écologie en France et dans le monde, le Centre d'écologie fonctionnelle et évolutive. Ce complexe scientifique s'étoffe progressivement dans les années 70 et 80. Il renforce sa dimension internationale avec l'installation du CIRAD et de l'IRD, le nouveau nom de l'Orstom, qui faisait des organismes français qui étaient dédiés tous les deux à la coopération avec les pays du Sud. Elle devient aussi le lieu d'implantation d'une antenne du Centre AgroParisTech. En 1986, donc, est né Agropolis International. Les bâtiments hébergeant Agropolis International et Agropolis Museum sont construits au début des années 90 par la région. Bref. Aujourd'hui, le CIRAD, une de ces institutions regroupées sur le complexe Agropolis, fête ses 40 ans. En 1984, l'État dote la France d'un organisme de recherche agronomique pour le développement, avec la coopération comme mode d'action. Puis, le temps aidant, le CIRAD devient l'organisme français de recherche agronomique et de coopération internationale pour le développement durable des régions tropicales et méditerranéennes. Présent dans une cinquantaine de pays, outre ses chercheurs, il s'appuie sur un réseau mondial de 200 partenaires. Aujourd'hui, suivant les besoins, il travaille sur les territoires ruraux et leur résilience après avoir défendu la révolution verte. Mais autre temps, autre mœurs. D'une part, l'échelle de ses travaux s'élargit à l'écoute des collectivités locales. D'autre part, la recherche s'habille de participation. La coopération et les savoirs descendants se muent en écoute et en coproduction avec les pays du Sud. D'autant plus encore dans ce monde traversé de crises multiples liées au climat, à la biodiversité et à la sécurité alimentaire. La pratique du terrain et du systémisme des chercheurs du CIRAD les positionne en première ligne sur ce qu'on appelle ici, à Montpellier, le croisement des acteurs et des thématiques. Un regard collectif et transversal sur l'alimentation, la santé et l'environnement, le fameux process montpelliérain, une recherche partagée pour construire le monde de demain, pour mettre en commun l'intelligence pour agir. Le concept fut dévoilé lors des Global Days en 2024 par tous les labos et un écosystème qui permet de tester la cohésion du savoir. Depuis, ici, on travaille, on teste One Health avec un objectif, déconstruire les savoirs anciens pour reconstruire ou co-construire par les sciences à l'écoute de tous les savoirs sans être dans la culture de la promesse. Alors, les élections européennes ont eu lieu avec leur cortège de conséquences. D'abord, on a eu une augmentation des députés populistes, mais pas de changement de majorité dans les équilibres du Parlement européen. Par contre, l'écologie perd des sièges. La vague verte de 2019, qui avait été portée par les marches climat et la démocratie directe, s'effondre. Les bons scores des Verts dans les pays scandinaves et aux Pays-Bas ne peuvent occulter les débâcles en Allemagne et en France. Le groupe des Verts et des régionalistes passe de 71 à 53 élus et devient l'avant-dernier groupe au Parlement européen. Pourtant, l'écologie reste au cœur des préoccupations des électeurs. Éoliennes, fin de la voiture thermique, LR et RN se sont saisis de la question sans que les Verts ne parviennent à faire entendre leur contre-discours. Résultat, ceux qui dénoncent une écologie punitive ont supplanté les tenants d'une écologie de solution. Comment être audible ? François Gemène, qui est politologue et qui est membre du GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, propose une solution. Il faudrait davantage insister sur les bénéfices de l'action plutôt que de dénoncer uniquement les risques liés à l'inaction. Alors, la suite, on la connaît. C'est la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre l'Assemblée nationale. Et cela a un effet direct, bien sûr, sur l'ordre du jour du Palais Bourbon. Nous n'allons pas revenir, bien sûr, sur la nécessité absolue d'aller voter à la fin de ce mois de juin et la première semaine de juillet. Bien sûr, la dissolution entraîne logiquement la suspension des travaux, avec pour principale conséquence de mettre fin temporairement, au moins, à l'examen du projet de loi sur la fin de vie. Mais l'écologie est aussi touchée. Commissions d'enquête et missions d'information sont abandonnées et devront être recréées par la nouvelle Assemblée pour reprendre leurs travaux, à condition que, bien sûr, cette nouvelle Assemblée les reprenne. Alors, en question, la simplification. Mardi 11 juin, le Sénat devait voter en première lecture le projet de loi de simplification de la vie des entreprises, porté par le ministre de l'économie Bruno Le Maire, c'est reporté. Agriculture, suspendu. Les travaux sur le projet de loi de souveraineté en matière agricole. Le texte, qui venait tout juste d'être adopté en première lecture par l'Assemblée nationale, devait être examiné en commission au Sénat dès cette semaine. Une nouvelle fois, les décisions politiques vis-à-vis de l'agriculture française risquent de ne pas être tenues, déplore la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles, la FNSEA, qui appelle tous les partis politiques à mettre dans leur feuille de route le sujet du revenu agricole et des simplifications. Mais après tout, cette suspension de la mesure agricole n'est-elle pas une bonne nouvelle sur le plan de l'écologie ? L'énergie, le 11 juin toujours, le Sénat devait examiner en plénière la proposition de loi de programmation de l'énergie. Relance du nucléaire, objectifs en matière d'énergie renouvelable, mesures de simplification et de régulation étaient inscrits dans cette proposition de loi. L'examen est désormais suspendu, comme tous les travaux du Sénat en séance publique. Et ça, sans doute, c'est très grave. L'EPIFAS, particulièrement médiatisée, la proposition de loi de lutte contre les substances per- et polyfluoroquilées, l'EPIFAS, restait en attente d'une deuxième lecture au Palais Bourbon, après son adoption à l'unanimité au Sénat le 30 mai. Portée de longue date par le député écologiste Nicolas Thierry, elle misait sur l'interdiction de la fabrication, l'importation, l'exportation et la mise sur le marché de certains produits contenant ces substances. Les cosmétiques, les fartes de ski, les textiles d'habillement, à l'exception de ceux conçus pour la sécurité des personnes, à compter de 2026. Le tout en anticipation de la proposition européenne qui a été lancée par l'Agence européenne des produits chimiques. La nouvelle Commission européenne devra s'en saisir. Le logement aussi touché. Dans le domaine du bâtiment et de la rénovation énergétique, le projet de loi déposé au Sénat par Guillaume Kasbarian, le ministre délégué chargé du logement pour résoudre la crise actuelle, doit encore être examiné par la Chambre haute du Parlement et devrait a priori passer entre les mains d'une chambre recomposée à l'automne. La biodiversité, adoptée à l'unanimité par l'Assemblée le 29 dernier, le projet de loi de ratification du traité des Nations Unies pour la protection de la haute mer demeure désormais entre les mains du Sénat. Mobilité, la proposition de loi du député Renaissance Damien Adam, discutée dans l'hémicycle, envisageait de renforcer les objectifs de verdissement des flottes automobiles des entreprises. Elle soutenait un objectif d'achat de véhicules à très faible émission. La planification sera-t-elle débattue ? C'est sans doute un des aspects les plus importants. La perspective de consultation publique sur les projets de programmation pluriannuelle de l'énergie, les fameuses PPE, et de stratégie nationale bas carbone, la SNBC, qui devait démarrer après les élections européennes, s'éloigne encore davantage. Seront-elles prêtes pour la COP qui se tiendra en décembre à Bakou ? Avec la dissolution, ces consultations seront au mieux repoussées après les législatives et selon les résultats de ces élections, leur sort ou leur contenu sont plus qu'incertains. Pourtant, ces documents sont indispensables pour de nombreux acteurs et secteurs économiques qui ont besoin de visibilité à 5 et 10 ans sur la politique énergétique et climatique de la France. Autant dire que de nombreuses questions restent aujourd'hui en suspens. La semaine dernière, nous avons évoqué la vague de Théa Huppo avec Ingrid Sagné à travers son roman Le souffle de la vague. C'était passionnant. Et je vous conseille de réécouter le podcast si jamais vous avez raté cette émission. À tous les fondus de surf, rappelons que l'épreuve de surf des Jeux Olympiques aura lieu du 27 au 30 juillet prochain avec une prolongation possible jusqu'au 5 août. Si la houle se fait attendre. Alors, deux surfeurs tahitiens, Vahine Fierro et Colivast, défendront les couleurs de la France. La vague de Te Ahupo est célèbre, pas seulement à cause de son tube, mais parce qu'elle vient mourir sur un platier corallien très dangereux. Nous n'avons pas eu le temps d'évoquer la question corallienne. L'île de Tahiti est un haut lieu du récif corallien. C'est d'ailleurs sur une des îles voisines, on l'appelle l'île sœur de l'archipel polynésien à Moréa, que fut créé le site du Criob, où les meilleurs chercheurs viennent travailler sur la résilience des coraux au réchauffement climatique. Cet hiver, une polémique a agité l'île. Il fallait pour les JO remplacer la tour des juges en bois et en sable par une tour en aluminium aux fondations bétonnées. Et sur les 300 mètres carrés nécessaires à l'implantation, on dénombrait plus de 100 coraux de 20 espèces différentes qui allaient être touchés, surtout par la barge, lors de l'acheminement du matériel. Finalement, un consensus a été trouvé. Les locaux ont dessiné un chenal qui a permis de ne pas abîmer les coraux. Cette réalité de la destruction corallienne inquiète. Le monde vient de subir une nouvelle vague de blanchissement due au réchauffement climatique, la quatrième. La mort du corail est à la fois une catastrophe en termes de biodiversité, bien sûr, mais surtout, elle détruit la barrière corallienne qui protège les atolls, les rend vulnérables aux tempêtes et à la montée des eaux. Une nouvelle activité se développe. Un peu partout apparaissent des jardiniers du corail, des amoureux de la nature, qui développent une technique de transplantation de coraux qui vise à renforcer les récifs endommagés. Malheureusement, ces techniques ne font pas l'unanimité chez les chercheurs. Elles nuisent à la richesse du récif parce que certaines espèces se replantent mieux que d'autres. Ce sont les fameux coraux blanchus, les acropora. Écoutons ce qu'en dit Laetitia Edouin, qui est chercheuse au CNRS.
On entend beaucoup parler de restauration et on considère que juste élever des coraux, c'est la solution miracle. Sauf que on a testé et on s'est rendu compte que juste faire pousser des coraux, c'était très facile. Il existait plein de méthodes qui marchaient très bien parce qu'on sait le faire depuis les années 80. Sauf que quand vous avez un épisode de réchauffement climatique, l'eau se réchauffe pour tout le monde et aussi bien pour vos pépinières coralliennes que pour votre récif. Et nous, on avait des pépinières traditionnelles et on a perdu 50% des boutures dans les pépinières lors d'un réchauffement climatique. Donc on avait 3600 boutures qu'on a mis 18 mois à élever. Voilà, donc ça demande du temps, c'est des efforts, c'est de l'argent et vous en perdez la moitié. Donc on s'est dit, ok, on s'est élevé des coraux, mais maintenant il faut essayer de les protéger du réchauffement climatique quand ça arrive. Donc le problème du corail, c'est qu'il va blanchir quand il fait trop chaud. Et donc on sait que c'est dû à l'augmentation de température, mais c'est aussi combiné avec l'intensité lumineuse qui vient en quelque sorte exacerber l'effet du réchauffement climatique. Donc en gros, l'idée de ces nurseries, c'était d'avoir des nurseries qui puissent mieux faire face au changement climatique et qu'on n'ait pas 50% de mortalité. Donc on s'est dit qu'on allait développer des pépinières coralliennes avec en quelque sorte au-dessus comme un chapeau qui permettent de créer de l'ombre. Donc en fait, l'idée, c'est d'avoir un chapeau comme ça et dessous, vous allez mettre vos pépinières parce que comme ça, vous enlevez en quelque sorte le problème de l'intensité lumineuse, du rayonnement solaire. Et comme ça, cet effet de blanchissement va être moins prononcé. Et il y a un ou deux travaux qui ont déjà montré ça, que si on crée de l'ombrage, en quelque sorte, on va favoriser la récupération du récif où le blanchissement va être moins intense.
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les recherches sur le corail, finalement, sont très récentes. Elles ont à peu près une vingtaine d'années. Et aujourd'hui, on travaille sur de nouvelles données. D'abord, on pensait que le corail se développait à une profondeur de 30 à 40 mètres, c'est-à-dire là où il était encore en lien avec la lumière. Aujourd'hui, on est en train de découvrir des coraux à plus grosse profondeur, à 70 mètres de profondeur. Et ces coraux sont beaucoup plus résistants. Donc, les chercheurs sont en train de tenter deux choses. D'une part, de prélever ces coraux qui semblent être plus résistants, et d'autre part, de les hybrider, de faire des super coraux, en quelque sorte, qui pourraient être résistants, eux, au blanchissement et au réchauffement climatique. En Bretagne, des recherches et une initiative pourraient changer la vie. On a tous vu à la télé depuis longtemps maintenant les vagues d'algues vertes qui empoisonnent les plages nord de la Bretagne, là où sont installés les élevages industriels de porcs. On sait d'où provient la pollution, mais personne ne veut prendre la décision de porter atteinte à l'élevage, même si la prolifération d'algues vertes est un véritable problème sanitaire et écologique. Toxique pour les hommes et les animaux, elle pourrait s'avérer utile pour l'industrie et le bâtiment. C'est en tout cas ce qu'ont découvert quatre jeunes de 22 à 26 ans. Il y a encore un an, ils ne se connaissaient pas. Aujourd'hui, ils sont tous les quatre lauréats du concours d'entrepreneurs. Leur projet a suscité l'intérêt du jury et ils ont remporté la somme de 20 000 euros, c'est peu, destinée au développement et à la commercialisation de leurs produits, ainsi qu'un passeport pour le pôle Nord, où ils rencontrent l'explorateur Mike Horn, concepteur du concours. De retour, l'équipe fonde Isalg, une start-up environnementale spécialisée dans l'isolation thermique biosourcée. Ils élaborent un isolant qui est fait 100% à base d'algues afin de proposer une solution totalement recyclable, biodégradable et durable. Les quatre entrepreneurs doivent penser à la façon de sécher, broyer et mettre en plaque les algues. Leur rôle est d'intervenir pour ramasser les algues, dépolluer les plages et en faire quelque chose de positif pour l'industrie du bâtiment. Peut-être a-t-on trouvé une solution ? Alors que les sondages se sont multipliés pour montrer l'inquiétude des Français vis-à-vis des pesticides, une étude montre qu'ils en connaissent mal les effets et pire, qu'ils les minimisent. Les trois quarts des participants n'ont pas plus de 6 bonnes réponses sur 14 questions. Ce manque de connaissances est relativement uniforme au sein de la population. Globalement, les Français surestiment le cadre de protection. Nombre de substances actives autorisées, diminution des usages dans le temps, distance minimale entre le lieu d'habitation et les pesticides. Par exemple, près de la moitié des participants pensent que la distance minimale entre une culture traitée avec des produits phytosanitaires les plus dangereux et les lieux d'habitation, écoles, hôpitaux, est de 100 mètres, alors que c'est 5 fois moins en réalité qui est donné, tandis qu'il mesure mieux les risques sanitaires que peut entraîner l'exposition aux produits phytosanitaires. Par ailleurs, ils sous-estiment la contamination dont ils sont déjà victimes. 70% des Français ne sont pas au courant que plus d'un tiers de l'eau potable distribuée ne serait pas conforme aux normes de qualité du fait des produits sanitaires. Sans information claire sur les pesticides, la transition écologique de l'agriculture sera encore retardée. C'est par une meilleure connaissance de la réalité des pesticides que les Français pourront juger des décisions prises ces dernières semaines pour en faciliter l'usage. Une agriculture économe en pesticides et en eau est la condition indispensable de sa durabilité, de sa compétitivité et tout simplement de sa survie à plus long terme. Souvent, il est dit que on ne peut pas remplacer le glyphosate, par exemple, qui est sans doute une des substances les plus dangereuses pour l'homme. Mais des avocats comme Corinne Lepage disent que quand un État le veut, il le peut. Effectivement, dénoncée depuis plus de 30 ans, cette mesure aurait pu aujourd'hui être remplacée ou on aurait pu au moins en développer et développer des recherches pour une substitution. Notre dernière escale sera à Montpellier, où la plus grande centrale de géothermie sur nappe de France va alimenter le quartier Cambacérès. Alors, Et cela a été inauguré le 2 mai dernier. Effectivement, on connaissait la géothermie. On la connaissait de longue date, par exemple en Roumanie ou en Islande. C'est-à-dire qu'on utilisait l'eau de la terre qui était très chaude pour réchauffer les bâtiments. Mais la géothermie qui est utilisée à Montpellier consiste à utiliser l'énergie thermique de l'eau qui se trouve dans les nappes phréatiques souterraines. Deux puits ont été creusés à 120 mètres de profondeur pour extraire de l'eau de la nappe qui va réchauffer en hiver et refroidir en été avec des pompes à chaleur. L'eau puisée est intégralement rejetée à la nappe sans modification de ses caractéristiques, hormis un réchauffement ou un refroidissement de quelques degrés, sans aucune incidence, nous dit-on, sur le milieu naturel ou la ressource thermique avec un équilibre de température à l'année. Entre 4,5 et 10 mètres de profondeur, la chaleur du sol est constante tout au long de l'année, de l'ordre de 12 degrés. La géothermie est donc considérée comme une énergie renouvelable en raison de sa très grande abondance, ce qui la rend pratiquement inépuisable à l'échelle de l'humanité. Et la pompe à chaleur capte l'énergie contenue dans l'eau d'une nappe phréatique peu profonde captée par forage. Mais on ne sait pas tout encore et la recherche commence seulement. Cette eau qui est rejetée est-elle vraiment sans risque pour la nappe phréatique? En tout cas, Cambacérès, un nouveau quartier d'affaires, est en plein développement et se veut exemplaire et résolument engagé vers la transition énergétique. Cet équipement vertueux, qui alimente déjà la gare de Montpellier Sud de France et la halle de l'innovation en chauffage et en climatisation, est à ce jour le plus grand projet de géothermie sur nappe de l'Hexagone. À terme, il desservira 450 000 mètres carrés, de bâtiments tertiaires, parmi lesquels la halle Nova, la Folie Cambacérès et le futur campus MBS. Elle évitera l'émission de 1250 tonnes de CO2 par an. L'impact carbone de cette technologie est donc excessivement faible. Il est divisé par 5 par rapport au chauffage électrique et par 8 par rapport au chauffage au gaz. L'objectif 2030 pour Montpellier serait d'ores et déjà atteint aux deux tiers grâce à cette géothermie. Voilà pour ces news, pas forcément toutes très réjouissantes, mais quand même, on voit que bien des choses avancent. Donc, nous nous retrouverons la semaine prochaine pour parler de l'agrivoltaïsme. Bon week-end et à bientôt.
Pour l'instant, je propose qu'on patiente et on avise.
Vous voulez qu'on patiente ?
Nous ne sommes pas la solution, nous sommes le problème. Et nous en sommes encore à pérorer sur notre exemplarité.
Expliquez-nous comment.
C'est un monde où l'on tente de faire croire qu'une automobile de plus de 2 tonnes qui emmène 500 kg de batterie est un objet écologique.
Si au lieu de détruire les forêts de Bornéo, d'où nous revenons, de Java, de Sumatra et de l'Afrique centrale, on protégeait ces forêts, il n'y aurait pas de danger.
On est en train de paniquer les populations, là.
Les mesures sautent, on est à plus 4 degrés, on parle d'apocalypse, on parle de... Non mais vraiment, c'est pas radical.
C'était Nous n'avons qu'une terre avec Dominique Martin-Ferrari sur le 93.9.